va le vent sur les reins des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Ainsi va la vie. Irène Finkel au micro et Tiphaine Lemaine à la technique. Aujourd'hui, je reçois Véronique Garofalo. Bonjour Véronique.
Bonjour Irène.
Véronique, vous êtes née à Toulouse le 19 avril 1965. Vous êtes fille unique. À l'âge de 4 ans, vous partez vivre à Lille pour un an, puis c'est à Paris que vous vous installez avec vos parents. Vous reviendrez à Toulouse à l'âge de 15 ans. Après un bac G3, vous intégrez l'IUT, gestion d'entreprise administration à Paul Sabatier. Vous aurez plusieurs vies professionnelles, et nous le verrons au cours de l'émission, avant d'ouvrir en 2019 un lieu à Toulouse réunissant tous les besoins des femmes touchées par le cancer. Un endroit chaleureux, féminin et bienveillant, non stigmatisé, très boutique et loin du protocole de soins et des établissements hospitaliers. Je vous cite « Entre de la féminité dans sa diversité ». Un lieu où vous accueillez la femme et non la femme malade, mais une femme qui traverse une période dans laquelle vous pouvez l'accompagner. Nous aurons bien sûr tout le loisir de parler de cette boutique chouchoute, mais commençons par le début et dites-nous, Véronique, avant d'en arriver là, quelle petite fille étiez-vous ?
Certainement une petite fille très réservée, très effacée et plutôt dans l'observation, toujours pas très très loin de ma maman.
Vous avez souffert d'être fille unique ?
Enfant, je n'en ai pas souffert, j'en ai souffert bien plus tard.
Oui. Alors on a dit que vous étiez née à Toulouse, mais que vous êtes partie à l'âge de 4 ans, je crois, à Lille.
Oui.
Vous avez souvenir de cette année, parce que ça a été qu'un an, je crois, dans le nord de la France ?
Oui, je me souviens de très bons moments d'amitié. Et à l'époque, c'était le jeudi qu'on n'allait pas à l'école. Et on allait dans les dunes de la mer du Nord. Et je me souviens de moments extraordinaires avec d'autres enfants que nous avions rencontrés là-bas et des mamans qui accompagnaient aussi la mienne. Et on passait notre journée, pourtant il faisait froid, pourtant il pleuvait et pourtant on s'amusait.
Mais oui, c'était chaleureux, c'est ce qui ressort de ce que vous dites.
Très chaleureux, oui. C'est le souvenir que j'en ai.
Alors vous dites que vous êtes arrivée à Paris à 5 ans,
oui.
Donc en 70. Vous avez souvenir de ce déménagement, même si vous étiez une toute petite fille ?
Pas du tout. C'est comme si j'ai été transportée d'un point A à un point B et entre les deux, je me souviens pas.
Vous vous souvenez de rien ?
Non, de rien.
Donc, vous vous souvenez surtout de vos premières années parisiennes, j'imagine ?
Oui. Oui.
C'était chouette ? C'était comment, Paris, petite fille ?
Alors, toute petite, j'ai pas de souvenirs marquants. C'était une vie tout à fait banale. J'étais avec ma maman, j'allais à l'école. J'avais un papa qui travaillait beaucoup et qui était souvent en déplacement. Donc en fait, on était
souvent toutes les deux.
Voilà, c'était le binôme.
D'où vous étiez très très proche.
Oui, oui, oui. Et après, j'étais dans une école privée, catholique. Dans laquelle j'étais très bien intégrée, j'avais des camarades, enfin bon, tout se passait normalement, quoi. Mais on n'allait pas très souvent dans Paris, on habitait Sèvres, et c'était plutôt des balades en forêt, à côté de l'appartement, voilà, des choses plutôt simples. On allait peu sur Paris, et la vie parisienne, la vie culturelle, etc.
Ça, c'est venu après.
C'est venu bien plus tard.
Petite fille, vous aviez des activités extrascolaires ?
Oui, je faisais de la danse classique. Et puis après, je me suis orientée plus sur la moderne jazz et de la natation.
La danse, vous l'avez pratiquée longtemps ?
Ben de 6 ans à une vingtaine d'années.
Oui, vous avez arrêté ? Pourquoi ?
Ben, j'ai arrêté parce que vie professionnelle, parce que voilà, le temps manquait, puis j'ai fait d'autres choses.
Et vous avez fait d'autres choses. C'est pas voilà. Quelque chose qui vous manque ?
Non.
C'est long quand même, de 6 ans à une vingtaine d'années, une quinzaine d'années de danse.
J'ai remplacé par d'autres choses. Puis pour le coup, je ne suis pas une grande sportive. Je pense que j'ai fait de la danse parce que j'aimais cet univers. J'ai fait de la natation parce que je suis bien dans l'eau et j'aime toujours nager. Mais voilà, je ne suis pas une fana du sport, mais voilà, j'ai d'autres activités comme la photo, comme le chant, Voilà.
Ça, ce sont des activités que vous pratiquez aujourd'hui.
Aujourd'hui.
D'accord. Revenons à ces jeunes années. Vous avez fait l'apprentissage d'un instrument de musique ?
Non, très peu. J'ai essayé le piano, mais je n'ai pas poussé plus que ça.
Parlez-moi de cette scolarité parisienne. Mmh. Comment ça se passait ? Vous aimiez l'école ?
Pas trop.
Alors c'est dommage parce qu'on ne voit pas la tête associée à la réponse.
Ce n'est pas que je n'aimais pas l'école, c'est que je n'avais pas du tout confiance en moi. Je me trouvais nulle. Je faisais tout pour qu'on m'oublie, pour qu'on m'interroge surtout pas. Et je ne suis pas peut-être tombée, à part quelques rares exceptions, sur des instituteurs, des institutrices et des profs qui au contraire, m'ont aidé à évoluer. Voilà, je préférais rester dans l'ombre, comme, un petit peu comme dans la vie.
Oui.
Un peu en retrait.
Un peu voilà. En retrait. Vous êtes restée à Paris, on a dit, jusqu'à l'âge de 15 ans, donc c'est-à-dire que vous avez fait tout le collège à Paris quand même.
Oui, jusqu'à la troisième, exactement.
Jusqu'à la troisième. Racontez-moi, vous venez de dire on n'allait pas souvent sur Paris, la rencontre avec l'art s'est faite un peu plus tard, ce qui veut dire donc sous-entendu qu'elle s'est quand même faite à un moment donné.
Oui,
à quel moment s'est-elle faite et comment êtes-vous venue à Paris pour faire des expositions, des choses comme ça ? Vous aviez quel âge ?
Je pense que j'avais vers 10 ans.
Oui.
Vers 10 ans.
Ça a été une proposition de votre maman, justement, de commencer à faire des découvertes parisiennes, voilà. Des musées, etc. Ou c'est vous qui avez demandé ?
Non, j'ai suivi ma maman qui a été à l'origine de cela. Mais alors, il y a eu un événement marquant dans mon enfance, c'est-à-dire quand j'ai eu 9 ans, j'ai perdu mon papa. Donc avant ça, ma maman ne travaillait pas. Et à partir de là, ma mère a travaillé sur Paris. Et donc, c'est ce qui m'a aussi amené un petit peu à découvrir Paris, c'est que j'allais parfois la rejoindre à son travail. Elle travaillait pas loin du musée Grévin. Et j'ai commencé par ce musée qui m'a... Encore aujourd'hui, j'ai un souvenir de ce musée extraordinaire et je me baladais toute seule, j'étais sans adulte, dans le musée. Vous sortez du musée, vous tombez dans un passage, je ne me souviens plus du nom, mais ces passages parisiens qui sont extraordinaires. Voilà, et c'est là que j'ai commencé de fil en aiguille, d'un musée à un autre. On allait un peu plus au cinéma. On allait au théâtre, j'ai découvert la revue du Lido. Alors là, ça a été extraordinaire aussi de voir toutes ces femmes, ces danseuses, ces plumes, ces costumes, enfin voilà.
Et, ça vous a fait rêver ?
Oui, beaucoup. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je voulais faire plus tard créatrice de revue.
D'accord.
Ou de comédie musicale. Voilà. Mais bon, ça n'a pas été ça mon projet au final, mais oui, j'adorais ça.
Alors, on a dit que vous aviez fait la découverte des musées, des expos. Qu'est-ce qui vous plaisait ? L'ambiance, la découverte, de l'art ?
J'étais dans un monde, un petit peu comme un monde parallèle, et ça me transportait, ça me faisait rêver. Je me souviens aller au musée du Louvre et m'asseoir comme ça, et je pouvais rester longtemps sans... J'étais enfant quand même, j'avais 11-12 ans, donc je sais pas, j'étais bien.
Vous étiez bien, vous
voilà.
Étiez transportée.
C'est ça.
Vous avez souvenir de camarades, vous étiez liés d'amitié,
oui.
Vous étiez très proche de vos copines d'école.
Oui, j'avais de très bonnes amies, d'univers très différents. Certaines qui étaient plutôt de la bourgeoisie, d'autres pas du tout. J'ai découvert vraiment des milieux très différents.
À l'âge de 15 ans, vous rentrez à Toulouse où vous avez toute votre famille, donc avec votre maman.
Nous sommes tous originaires de Toulouse.
Vous êtes tous originaires de Toulouse. Vous rentrez à 15 ans. Ça n'a pas été trop dur parce qu'en pleine adolescence, comme ça, au moment justement où on fait la transition, vous venez de le dire, vous êtes resté jusqu'à la troisième à Paris, au moment où vous rentrez au lycée, de le faire dans une autre ville et de pas dans une autre ville où vous n'avez aucun camarade, puisque vous n'avez
alors oui et non
encore jamais vécu à Toulouse.
Oui et non, parce que toutes mes vacances, je les passais à Toulouse.
Donc vous étiez déjà lié d'amitié avec certaines personnes.
Voilà, et j'avais aussi un groupe d'amis sur la région. Donc ça n'a pas été douloureux du tout. Et c'était le bon moment parce qu'entre la troisième et le lycée, ben, c'était la charnière pour changer d'établissement. Donc, et puis on avait toutes les deux, ma mère et moi, envie de retrouver la famille, le soleil, le midi. Enfin,
et bon, oui, parce ça, que vous étiez que puisque votre papa était décédé, vous étiez plus que toutes les deux à Paris. Donc c'était le bon choix pour vous de revenir et de retrouver une...
Non, ça a été d'un commun accord. On a eu envie toutes les deux de rentrer.
Et votre maman a retrouvé du travail à Toulouse ?
Non, elle a pu travailler.
Elle a pu travailler. Vous rentrez, vous habitez à Toulouse même ?
Non, à Colomiers.
Donc vous avez été au lycée à Colomiers ?
Non, à Toulouse.
À Toulouse.
Où est-ce au que lycée vous êtes... Montalembert.
À Montalembert, d'accord. Donc vous êtes restée en privé.
Oui.
Qui était rue des 36 Ponts.
C'est ça.
C'est ça, d'accord. Mmh. Comment ça se passait ? Vous partiez le matin en transport en commun ?
Oui, j'étais en transport en commun.
Demi-pensionnaire.
Demi-pensionnaire, j'ai rencontré des camarades. Puis là, ça a été la vie de jeune ado.
La vie de jeune ado, mais justement, c'est quoi la vie d'une jeune ado qui ex-parisienne, qui arrive à Toulouse, justement à l'âge de 15 ans aimiez sortir ?
J'ai jamais été... quand je compare par rapport à mes enfants aujourd'hui, qui sont toujours en train d'organiser des fêtes, de sortir à droite à gauche, moi j'étais plutôt posée quand même, je m'aperçois. J'avais des camarades, mais je sortais très peu le soir. Mais après, j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui mon mari.
Mais vous l'avez rencontré très jeune, alors ?
Très jeune.
Quel âge vous aviez ?
15 ans.
Ah oui, effectivement.
Avec lui, oui, on avait une bande de copains, on sortait le week-end, on allait danser, on allait au cinéma, enfin bon, comme des jeunes, quoi.
Et vous vous êtes mis en ménage, comme on dit, je ne sais pas si c'est une expression que les jeunes connaissent.
Bien plus tard.
Bien plus tard, donc ça a été beaucoup plus tard.
Oui, j'ai d'abord fait toutes mes études.
D'accord. Donc vous avez eu seconde, première, terminale, Montalembert, scolarité normale.
Oui, normale, voilà, à peu près.
Un peu moins introvertie.
Toujours quand même effacée, mais bon, j'avançais petit à petit contre toute attente parce qu'on ne m'avait pas donné de très bons pronostics, mais finalement...
Vous avez votre bac, vous rentrez à l'IUT.
Je rentre à l'IUT.
Avec quel projet dans ces années-là où on a 17-18 ans, où on est en terminale, on ne sait pas toujours ce qu'on a envie de faire, vous aviez quoi en tête à ce moment-là ?
Je pense que j'avais envie de faire des études, mais pas trop longues, et d'avoir vraiment quelque chose en poche qui me permette de trouver du travail. Ça, c'était.
Mais pas une idée spéciale d'un métier. Non, vous vouliez rentrer rapidement dans la vie active.
Oui, je voulais rentrer dans la vie active pas partir dans des filières où ça me paraissait compliqué de trouver du travail. Donc l'IUT, pour moi, c'était un bon compromis. C'était un IUT de gestion entreprise et administration.
C'est quelque chose que vous avez trouvé intéressant ?
Pas inintéressant, en tout cas.
Oui.
J'ai fait un parcours sans faute. J'ai fini 8e de ma promotion, donc c'était pas trop mal. Je me suis régalée pendant les stages. Aujourd'hui, je fais quelque chose de très différent, mais bon, on apprend à chaque étape.
Bien sûr, et puis on le verra, le parcours de votre vie a fait que c'est peut-être pas par hasard si aujourd'hui vous avez ouvert la boutique Chouchoute, et ça on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais je vous propose tout de suite une première pause musicale. Alors vous avez choisi de nous faire écouter Carlos Santana, Europa. Super, j'adore. Pourquoi ce choix ?
Alors, d'abord parce que c'est vraiment le type de musique que j'écoutais quand je suis arrivée à Toulouse, donc en pleine adolescence. Qu'en 83, je les ai vus en concert à Toulouse et que pour moi, ça reste encore aujourd'hui le plus beau souvenir de concert de ma vie. Et que voilà, j'aime beaucoup ce que cette musique véhicule.
Alors on écoute. Merci en tout cas pour ce choix, j'aime beaucoup aussi.
Thank you.
Quel bonheur. Merci, merci pour ce choix. Moi, j'adore, j'adore.
Avec plaisir.
Écoutez ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Vous êtes diplômée de votre DUT. Vous trouvez un travail dans une société américaine de renseignements commerciaux basée à Toulouse où vous commencez en tant qu'enquêtrice. Alors ça me paraît assez extraordinaire parce que vous êtes une femme posée, réservée, très discrète. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça ne va pas du tout. Alors peut-être que vous allez me dire, mais si justement c'est ça qu'il faut pour être enquêtrice. Mais dans ma tête, ça ne va pas du tout ensemble. Comment ça se passe d'abord ce premier emploi, ce début dans la vie professionnelle après vos études et justement cet emploi d'enquêtrice, ça consiste en quoi à l'époque?
Alors, donc, ce sont des enquêtes de solvabilité, c'est-à-dire des enquêtes sur des entreprises demandées par d'autres entreprises pour une relation commerciale. Alors, pourquoi ça me convient? Parce que je reste toujours quelqu'un d'assez timide, mais je ne fais pas d'enquête en allant sur site. Ce sont des enquêtes téléphoniques. Donc, effectivement, il faut appeler l'entreprise, avoir quelques informations, combiner ça avec des informations bancaires. Mais bon,
En plus, il faut remettre les choses à l'époque. Vous parlez du début des années 80. Donc, on n'a pas encore tous les outils informatiques peut avoir maintenant où on fait ça en 10 secondes, quoi.
Non, non, ce sont des enquêtes téléphoniques. On fait un rapport, voilà. Mais on est un peu dans sa bulle quand même, finalement.
Oui, bien sûr.
Donc,
quelque part, ça vous convient.
Voilà. Ça faisait appel à mes connaissances de gestion, mes connaissances commerciales, mes connaissances juridiques. Donc, ma formation collait tout à fait. Et après, je menais mon enquête, je faisais mon rapport et puis voilà.
Vous avez fait ça pendant combien de temps?
Ah, j'ai dû faire ça 4-5 ans.
Ah oui, donc là, en fait, vous avez 20 ans quand vous commencez, une petite vingtaine d'années jusqu'à vos 25 ans. Vous êtes installée avec votre mari à ce moment-là?
Oui, à ce moment-là, oui, nous sommes ensemble. Oui.
Et vous êtes à Toulouse?
À Colomiers.
À Colomiers.
Toujours.
Vous n'en voulez pas de Toulouse, hein, il n'y a rien à faire.
Ça devait être trop cher.
ça devait être trop cher. Et alors, pourquoi vous arrêtez dans cette société? L'envie d'autre chose? Alors, une opportunité? Comment
ça se
passe?
Pas dans cette société, je change de poste.
D'accord.
Donc, il y a l'opportunité d'un poste d'assistante de direction commerciale grand compte. Et là, pour le coup, j'ai fait preuve de beaucoup de courage. Je me suis lancée, j'ai postulé et j'ai été prise. Voilà. Donc là, je suis passée un petit peu de l'autre côté, côté commercial et non plus technique. Et voilà, j'ai eu plus de contacts, j'étais dans une équipe de commerciaux. Donc là, effectivement, il y avait un petit peu plus de relationnel, de mise en avant, de gestion de comptes clients, de contentieux parfois à gérer. Enfin, voilà, et ça m'a fait beaucoup de bien.
Oui, ça vous a donné confiance en vous?
Un peu plus, oui.
Oui?
Un peu plus.
Et là, ça a duré beaucoup?
Ça a duré jusqu'à la naissance de ma fille, donc 3-4 ans, oui.
Vous plus. Avez deux enfants, c'est ça?
Trois.
Quel âge ont-ils aujourd'hui?
28, 25 et 22 bientôt, le dernier.
Oui, donc ils sont assez proches les uns des autres. Vous avez arrêté de travailler pour les élever?
Oui.
C'était important pour vous?
Très important. Essentiel.
Oui.
Alors, j'ai pu le faire. Hein. Attention, ce n'est pas toujours le possible. Mais j'ai préféré sacrifier certaines choses et être auprès de ma fille à l'époque. C'était très clair dans ma tête. Moi, je ne pouvais pas laisser mon enfant à une nounou ou dans une crèche. Je me suis donné les moyens de le faire et je ne regrette pas. Ça a été de très, 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 très belles années, beaucoup de partage avec eux, puisqu'après j'ai enchaîné sur le deuxième et le troisième. Voilà, sans reprendre le travail entre.
Et à ce moment-là, donc vous investissez pour les enfants, j'imagine que vous investissez aussi à l'école, maman accompagnatrice,
voilà,
des choses comme ça quand on arrête de travailler.
J'ai vécu ça pleinement, c'est-à-dire je m'occupais de mes enfants et puis je m'investissais dans leur univers. Donc, j'ai passé des agréments pour les accompagner à la piscine. J'ai été présidente d'association de parents d'élèves. Voilà, je me suis occupée comme ça.
Donc, c'était important pour vous d'être très présente dans tous les domaines concernant vos enfants.
Oui. Moi, quand je vis quelque chose, je le vis à fond. À quoi que je fasse. Voilà, c'est important.
Et vous êtes arrêtée de travailler pendant combien de temps ?
12 ans.
Ah oui, c'est une grosse parenthèse.
Très grosse.
Jusqu'à ce que le dernier aille à l'école, j'imagine.
Oui, voilà, quand le dernier est rentré en primaire, je me suis dit, là, je ne vais pas rester à les attendre, mon mari et les trois enfants, toute la journée à la maison.
Il vous fallait reprendre une activité
professionnelle. Il me fallait retrouver quelque chose.
Quel âge vous aviez à cette époque-là, après les 12 ans d'arrêt ?
J'avais 35 ans.
Oui, donc c'est très jeune encore pour travailler, bien sûr.
Non, plus que ça, pardon. 35, même 40. Mm-hmm. 40, pardon. Et
ça reste très jeune, 40 ans.
Et j'ai eu l'opportunité, une opportunité qui est inattendue. Mais bon, voilà, on m'a proposé un poste d'assistante médicale. Alors, un univers que je ne connaissais pas du tout. J'ai accepté et voilà, une autre aventure a commencé.
Alors, assistante médicale, mais comment, dans un cabinet médical ?
Oui, dans un cabinet médical pluridisciplinaire, donc
d'accord.
Avec plusieurs médecins.
Et alors, on vous a proposé ce poste sans même avoir les formations pour...
Non.
Vous avez appris sur le tas.
Voilà. Je ne vous cache pas que le premier soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, je crois que j'ai fait une grosse bêtise.
D'accepter, mais... voilà. Oui, parce qu'il y a des termes médicaux à connaître pour les comptes rendus,
beaucoup de
choses.
Oui, et puis entre-temps, en 12 ans, l'informatique était arrivée, progressé.
Et vous n'aviez pas de remise à niveau.
Voilà, tout ça, c'était un petit peu loin. Et bon, je m'y suis mise petit à petit. Voilà. On m'a fait confiance.
C'est très important.
Et ça, je remercie jamais assez beaucoup. Les gens qui m'ont fait confiance.
Ça aide dans tous les domaines. Quand quelqu'un vous fait confiance, ça n'a pas de prix.
Ça
n'a pas de prix. Qu'est-ce que ça vous a fait découvrir, humainement parlant, cette expérience ?
Alors, déjà, l'écoute, beaucoup. L'écoute, l'accompagnement... apporter des solutions qui sont parfois pas les plus évidentes. Alors, j'ai eu la chance aussi de travailler dans un cabinet médical où certains médecins, et un en particulier, étaient extrêmement ouverts à la médecine traditionnelle, mais aussi à beaucoup d'autres choses.
Des médecines parallèles.
Oui.
D'accord.
Et apprendre la personne dans sa globalité. Et ça, je trouve que dans le médical, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire qu'on n'est pas une pathologie, mais on est une personne. Et donc, de prendre la personne dans sa globalité amène des solutions qui ne sont pas de prime abord évidentes et surtout des résultats. Voilà, j'ai découvert dans ce cabinet également la nutrition, la micronutrition, la thérapie comportementale et cognitive. Et j'ai fait des formations en interne et j'ai pu accompagner ces personnes qui étaient en suivi nutritionnel. Quand je parle de suivi nutritionnel, c'est des obésités importantes liées à des pathologies. Donc, où il faut mettre en place des programmes de suivi pour éviter de tomber dans un cercle vicieux de médicaments dont on ne sort plus. Et avec la nutrition, micronutrition, justement, pouvoir perdre du poids, bien sûr, mais pallier à des maladies. Voilà.
Qu'est-ce que vous appelez micronutrition ?
La micronutrition, c'est les apports de nutriments que vous ne trouvez pas en quantité suffisante dans l'alimentation.
Oui, donc
nécessaires à vos carences.
Donc des compléments alimentaires.
Si vous voulez, on peut appeler ça des compléments alimentaires. Oui.
D'accord. Et vous êtes resté combien de temps dans ce cabinet médical ?
11 ans.
Ah oui, c'est une belle tranche de vie.
Oui. Ah oui, ça a complètement changé ma vie parce que je suis passée d'un monde à un autre. Et vraiment, je me suis...
Et un monde qui vous convenait.
Voilà, une passion pour tout ça, pour tout ce milieu d'accompagnement, de découverte de l'homéopathie, de la nutrition, de la thérapie comportementale et cognitive, que tout un tas de choses qu'on peut mettre en application dans sa vie et qui changent énormément de choses.
Vous aviez conscience déjà avant toutes ces années que le bien-être des autres était quelque chose de très important pour vous ?
J'ai toujours été bienveillante. Mais je n'avais pas conscience que je pouvais à mon tour apporter vraiment quelque chose.
D'accord.
Accompagner, aider. Voilà.
Pourquoi l'arrêt au bout des 11 ans ? Qu'est-ce qui se passe au bout de ces 11 ans ?
Ben, au bout des 11 ans, le médecin avec qui je travaillais en collaboration étroite a quitté le cabinet pour changer de région. Et je ne me voyais pas rester dans ce cabinet pour un poste de secrétaire médical qui prenait des rendez-vous ou...
Oui, voilà. Vous aviez besoin d'autre
Moi,
chose.
J'avais besoin vraiment d'autre chose. Et donc, j'ai décidé d'arrêter et de trouver un autre poste.
Et là, ça, on était en quelle année ?
2016. Oui.
Vous avez trouvé un autre poste ?
Oui, j'ai trouvé un autre poste. là aussi, dans un tout autre univers, puisque c'était dans l'industrie. Un poste de responsable d'administration des ventes.
L'industrie, quelle industrie ?
Pharmaceutique. Mmh. Voilà. Et là, c'était quoi ? C'était développer le fichier client, faire de la prospection, signer des contrats. Enfin bon, voilà, c'était...
C'est quelque chose qui me paraît quand même assez loin de vous, ça.
Très, très loin. Très loin. Mais en même temps, c'est peut-être ce qui m'a donné la possibilité de faire ce que je fais aujourd'hui.
Ben, on va découvrir très vite ce que vous faites aujourd'hui. Je vous propose la deuxième pause musicale et après on parlera de votre boutique chouchoute. Vous avez choisi pour ce deuxième morceau « Femme, je vous aime » de Julien Clerc. J'ai presque envie de dire sans surprise. Voilà, quand on a passé une petite demi-heure avec vous, le choix de cette chanson paraît absolument évident. Dites-moi quelques mots par rapport à cette chanson et à ce choix.
Ben, tout simplement, c'est une chanson que j'ai toujours écoutée, entendue avec beaucoup d'émotion, jusqu'à des frissons.
Et oui, bien sûr, je comprends.
Voilà, et... Je trouvais qu'en plus, elle collait bien avec ce que je vais vous raconter par la suite.
Alors, on écoute.
Quelquefois, si doux. Quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure.
Je n'en connais
quelquefois si drôle. Sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul. Parfois elle le veut. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul.
Quel hommage magnifique. C'est merveilleux d'entendre un homme parler des femmes comme ça. C'est du bonheur. C'est vraiment une très très jolie chanson. Je comprends qu'elle puisse donner des frissons. C'est merveilleux. Il faudrait que tous les hommes parlent des femmes comme ça.
Elle serait moins belle du coup.
Dites-moi, Véronique, 2019, vous ouvrez le magasin Chouchoute.
C'est 2020.
Comme 2020. En plein Covid ?
En plein Covid.
Racontez-moi le début de cette aventure.
J'ai donc quitté mon précédent poste en 2019 dans l'intention de créer Chouchoute. J'ai mis un an à aboutir à ce projet. Entre-temps, le Covid était là.
Ça ne vous a pas découragé ?
Si. Lors du premier confinement, pendant 2 mois, je me suis posé la question. Je le fais, je ne le fais pas, je le fais, je ne le fais pas. Mais en même temps, c'était tellement ancré en moi que... j'arrivais pas à renoncer et que finalement j'ai dit on verra, j'y vais. Voilà. Et j'ai ouvert en octobre 2020, donc ça fait un an.
Ça fait pile un an, effectivement. Oui. Alors, avant, vous allez. Si, bah, tout de suite, vous pouvez me dire où il se situe.
La boutique se situe au 57 rue de la Concorde à Toulouse.
Donc on est en plein centre-ville.
Oui.
Expliquez-moi le concept de cette boutique.
Alors, c'est une boutique, je dirais que c'est un concept store féminin, mais atypique. Parce que je m'adresse aux femmes, à toutes les femmes, et en même temps...
À toutes les femmes, mais... À toutes les femmes qui ont eu un cancer ou à toutes les femmes ?
À toutes les femmes.
Ah, donc ça, c'est bien de le...
Je précise, à toutes les femmes. et à celles aussi qui traversent la période de la maladie, notamment du cancer. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte de plusieurs choses. Sur Toulouse, notamment, il existait des réponses pour les personnes qui étaient en soins oncologie, mais soit dans des lieux très médicalisés, soit dans des pharmacies, des orthopédistes, des prothésistes capillaires, etc., que tout n'existait pas dans un seul lieu. Et moi, j'ai voulu centraliser les besoins dans un même lieu. Et surtout, surtout, j'ai voulu que ce soit dans une boutique. Et une vraie boutique. C'est-à-dire, vous venez chez Chouchoute, vous aurez peut-être l'occasion de venir.
Avec grand plaisir.
La vitrine n'a pas de message parlant maladie, oncologie.
Mais alors, je suis dans cette rue, je m'arrête devant cette vitrine, je ne connais pas du tout la boutique.
Oui.
Pour moi, c'est un magasin de quoi ? Qu'est-ce que me dit la vitrine ?
Un concept store féminin.
Concept store féminin.
C'est-à-dire, vous y trouvez des accessoires de mode, de la cosmétique, des vêtements.
Qu'est-ce que vous appelez accessoires de mode ?
Ben, bijoux, chapeaux, foulards, y a même des plaids, des bougies, du maquillage, voilà, il y a plein des sacs, plein de choses.
Plein de choses.
De la lingerie.
Et alors, qu'est-ce qui m'indique que ce magasin, que cette boutique, parce que c'est vrai que c'est plus joli de dire boutique et puis c'est déjà beaucoup plus féminin, vous avez raison, qu'est-ce qui m'indique que cette boutique à cet esprit dédié à ces femmes qui traversent une période difficile de leur vie au niveau de la santé ?
Bah, pas grand-chose. Mais en fait, vous ne venez pas là par hasard quand vous êtes concernée.
Et comment je sais que c'est chez vous que je viens ? Qui m'en a parlé ?
Alors, qui vous en parle ? Bah, les personnes qui vous suivent à l'hôpital, et notamment votre oncologue ou ce que l'on appelle les coordinatrices de soins. Ce sont des infirmières qui vous expliquent quoi trouver et où le trouver sur Toulouse. Donc moi, ma démarche a été de me faire connaître auprès de ces gens-là.
Donc vous avez fait le tour des médecins, des oncologues.
J'ai été à l'Oncopole, j'ai été dans les cliniques, rencontré toutes ces personnes-là. J'ai également un site internet. Donc,
comment s'appelle le site internet pour les dames qui voudraient aller voir ?
chouchoutetoulouse.com.
Chouchoute Toulouse attaché, d'accord, en un seul mot, chouchoutetoulouse.com.
Chouchoutetoulouse.com.
Alors là, on trouve bien sûr les accessoires qui sont à la vente dans la boutique, mais...
Alors, le site est plus orienté oncologie. Donc, pour le coup, sur le site, je parle de toutes les réponses et l'accompagnement que je propose pour les personnes qui sont en soins.
Vous êtes en partenariat avec les hôpitaux ?
Oui,
d'accord.
Les hôpitaux m'envoient du monde. Moi-même, je fais partie de l'ISGT, donc de l'Institut du Sein Grand Toulouse, qui est à Pasteur. Voilà.
Donc, les dames viennent, elles peuvent trouver un accompagnement, mais vous n'avez pas les formations d'accompagnantes pour ces dames-là.
Bien sûr, c'est essentiel. D'abord, on ne fait pas cet accompagnement sans formation validante qui nous autorise à ouvrir ce type de commerce.
D'accord.
Ensuite, je suis assujettie à la carte vitale. Donc, quand les personnes viennent avec une ordonnance, moi, je passe la carte vitale. Et pour avoir cet agrément-là, il faut avoir les formations.
D'accord. Voilà, comme quoi on apprend beaucoup de choses. Ça, ce sont effectivement des choses que j'ignorais. Comment ça se passe ? Vous avez un endroit un peu plus intime, un peu plus... Oui, intime, il n'y a pas d'autre mot pour recevoir, par exemple, une dame qui aurait envie d'acheter une perruque et de l'essayer tranquillement.
Oui.
J'imagine qu'elle ne fait pas ça au milieu de la boutique.
Non. Hein.
Vous avez un endroit personnalisé.
Il est important d'avoir un endroit intime. Donc, la boutique se compose de trois espaces. Le premier, c'est le showroom, où tout est exposé. Ensuite, j'ai un espace salon. Et là, on prend le temps, on s'assied, on discute, on échange, on boit un café, un thé. Il y a également une bibliothèque avec des livres à disposition si la personne souhaite emprunter. Et ensuite, un troisième espace d'essayage et de mise en beauté. Et ouais. C'est là que ça se passe.
Alors j'imagine que quand vous êtes en essayage et mise en beauté avec une dame, le showroom est fermé à ce
Absolument.
Moment-là. Comment on fait pour venir chez vous? On doit téléphoner, on prend rendez-vous? Quels
oui.
sont vos horaires d'ouverture?
Alors, il est préférable de prendre rendez-vous. D'abord parce que ce sont des rendez-vous, des moments d'échange qui sont longs et que je ne veux pas être dérangée pendant ces moments-là, ni pour moi, ni pour la personne qui vient. Donc, je me consacre vraiment à elle. Il arrive parfois qu'une personne arrive sans rendez-vous. Je refuse jamais. Mais du coup, ça ne sera pas aussi intime.
D'accord.
Voilà. Quand je reçois quelqu'un qui a pris rendez-vous, bah, tout simplement, j'ai un écriteau sur ma porte, actuellement en rendez-vous. Maintenant, les gens du quartier commencent à le savoir, donc ils reviennent. Voilà.
D'accord. Et vous êtes ouverte du lundi au samedi?
Alors, je suis ouverte du mardi au samedi, de 10h à 13h. Et de 14h à 19h.
Vous pouvez me communiquer un téléphone pour vous joindre?
06 89 07 20 24.
On peut rappeler l'adresse également?
57 rue de la Concorde à Toulouse.
C'est grand, c'est un espace qui est grand. Donc vous m'avez dit qu'il y a trois espaces, mais globalement sur les trois, ça fait une superficie de combien?
55 mètres carrés.
Oui, donc ça reste et grand et intime à la
oui.
fois. Donc
oui.
on doit s'y... Il y a une ambiance particulière, il y a une couleur particulière, il y a une musique particulière.
Alors, musique très peu, c'est très doux. C'est très doux, très feutré.
À votre image?
Ah, je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites.
Je confirme.
Voilà, chaleureux. En tout cas, les messages que j'ai, c'est plutôt ça. Voilà. C'est une ambiance aux couleurs très douces, des meubles bois, naturels. Voilà.
Vous êtes heureuse?
Très.
C'est vraiment quelque chose qui vous correspond.
Oui, oui.
Faire du bien à l'autre, c'est quelque chose de primordial pour vous.
Pour moi, c'est vraiment un aboutissement dans ma vie professionnelle. J'ai fait plusieurs choses très différentes. Ça, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps, mais bon, la vie fait qu'on fait pas forcément les choses au moment où on y pense. Mais en tout cas, je suis heureuse d'y être arrivée. J'ai pas lâché. Et je me sens vraiment à ma place. Oui.
Il doit y avoir des moments où ça doit être difficile parce que la femme que vous avez en face de vous dans ces moments d'intimité, c'est une femme qui traverse des moments douloureux. Donc il doit y avoir des qui se livrent forcément parce qu'elle se sent bien, parce que vous êtes une femme très bienveillante et très à l'écoute. Donc j'imagine qu'elle se laisse aller un petit peu et j'espère que vous n'êtes pas trop éponge parce que sinon ça doit être quand même très difficile à gérer.
Ça peut paraître difficile, mais en fait, moi, je ne me positionne pas comme ça, comme éponge d'une difficulté rencontrée par la personne que j'ai en face. Je suis là à côté d'elle pour l'accompagner et pour lui apporter des solutions. Et moi, souvent, je reçois une personne qui arrive, qui est dans une problématique, parfois fermée ou triste ou en colère. Et qui repart avec le sourire. Et moi, là...
C'est gagné.
J'ai gagné. Je suis heureuse pour elle et pour moi. Et c'est ça, mon rôle. Mon rôle, c'est pas de m'attrister avec elle sur ce qu'elle elle est en train de traverser.
Mais elle rentre pour chercher du positif et
elle ressort avec la
banane.
Je suis là pour lui apporter des solutions.
Et ça, c'est formidable. En tout cas, merci de cette réponse qui est une réponse...
Et surtout, ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est jamais la femme malade que je reçois.
Oui, ça, j'avais bien compris.
C'est la femme.
C'est la femme tout court. Et comme vous l'avez dit, vous recevez non pas la femme malade, mais une femme qui traverse une période dans laquelle vous ne pouvez que l'accompagner.
Oui.
Et c'est ce que vous venez de nous dire dans cette très jolie réponse. J'aimerais savoir si, en plus de... Alors, c'est vrai qu'elle n'a qu'un an d'existence, votre boutique, elle est toute jeune encore. Est-ce que vous faites quand même déjà ou est-ce que vous avez prévu d'être présente sur des salons ?
Alors, des salons, oui et non. Par exemple, lors d'Octobre Rose, j'ai participé à quelques événements. J'ai été à l'hôpital Joseph Ducoin lors d'une journée consacrée au cancer du sein et au cancer féminin. La course de la Ligue également. Mais dans mon projet, ce que j'ai surtout prévu, c'est des ateliers et des intervenants extérieurs qui viennent à la boutique autour d'un sujet. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, le Covid, tout ça, ça a été compliqué. Je n'ai pas trop pu le mettre en pratique.
Donc, c'est quelque chose qui devrait se faire
J'ai commencé,
rapidement.
Mais vraiment, là, je viens de commencer.
Donc, des intervenants.
Des intervenants extérieurs. Alors, ça peut être des sophrologues, socio-esthéticiennes, conseillères en images, nutritionnistes, voilà. Des personnes donc, qui, sur un thème qui vont intervenir. On fait des petits groupes de 4-5 personnes et voilà.
Alors, ce qu'il faut qu'on précise aussi, parce que c'est vrai que quand on dit cancer chez la femme, on pense très souvent cancer du sein, mais que vous accompagnez tous les cancers, pas spécialement le cancer du sein.
Tous les cancers qui nécessitent un besoin particulier.
Un accompagnement. Alors, je reviens quand même sur le cancer du sein qui... J'ai su récemment qu'après une ablation, il existe aux États-Unis des tatoueurs qui tatouent le mamelon. Ça existe, c'est quelque chose qui existe en France.
En France et à Toulouse.
Et à Toulouse. Donc ça, vous pouvez donner les adresses. Ça, c'est des choses dans l'accompagnement.
C'est aussi le rôle de chouchoute, c'est-à-dire que je suis vecteur. D'informations, de tout ce que l'on peut trouver qui ne se fait pas chez Chouchoute. C'est le cas, par exemple, des tatouages. Donc, moi, je me suis mise en relation avec les personnes...
Les professionnels qui proposent ça, oui.
Voilà. Et j'oriente. Voilà. Je réoriente, je donne les informations. Alors, ce que je propose, moi, chez Chouchoute, c'est une autre solution... qui est la prothèse de mamelon en silicone. Il existe aussi.
Oui, moi je sais que c'est... j'ai presque envie de dire, heureusement, comme je n'ai jamais été confrontée à ça, voilà, je découvre au fur et à mesure que vous en parlez. Oui.
Voilà. Il y a plusieurs réponses. Il y a la chirurgie esthétique également, où on peut reconstruire le mamelon. Mais voilà, tout ça, ça dépend de la personne, ça dépend... de ce que l'on peut faire après son opération, parce que tout n'est pas toujours possible, selon comment est la peau, la cicatrice, etc. Ça dépend aussi du budget de la personne.
Justement, question d'une femme qui, heureusement, n'a pas encore eu de cancer. Vous avez dit tout à l'heure travailler avec la carte vitale. Hein. Qu'est-ce qui est remboursé ? Qu'est-ce qui est remboursé pour une femme qui a un cancer ?
Alors, tout ce qui est prothèse capillaire. Donc,
d'accord.
Lors de la,
d'accord.
La perte des cheveux.
Après une chimio, oui, d'accord. Voilà. Ça, je ne savais pas déjà que c'était remboursé. OK.
Les prothèses mammaires externes en silicone.
D'accord. OK.
Que je fais également chez Chouchoute.
Et ça, ce sont des choses qui sont remboursées.
Voilà. Il y a une prise en charge totale. Enfin, pour les prothèses capillaires, pas toujours totale, mais en tout cas en partie.
Partielle.
Oui. Par la sécurité sociale et complétée bien souvent par la mutuelle.
Comme on est pratiquement à la fin de l'émission, Véronique, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose par rapport à Chouchoute et que je ne vous ai pas posée ?
Ça, c'est une question difficile.
Mais justement, c'est le moment de dire si j'avais...
Si j'ai une question que vous ne m'avez pas posée, vous m'en avez déjà posé tellement.
N'est-ce pas ? Je suis très curieuse. Non, mais c'est bien ce que vous faites. C'est très, très bien. Vous avez des projets autres ou pour Chouchoute ?
Autres pour Chouchoute, ben pour Chouchoute, j'espère développer, j'espère faire plus d'ateliers, plus de rencontres, voilà, et surtout pérenniser.
Vous travaillez avec les réseaux sociaux ?
Oui.
Oui, on peut vous trouver sur Facebook, sur Insta, comment ça s'appelle ? Chouchoute, j'imagine aussi.
Oui,
Chouchoute Toulouse.
Chouchoute Toulouse 31 pour Instagram.
Oui.
Sur LinkedIn, il y a Véronique Garofalo.
Oui, alors Garofalo, comme ça se prononce, hein, c'est G-A-R-O-F-A-L-O, tout simplement.
Voilà, sur Facebook également.
Ah, donc sur Facebook, c'est Chouchoute. Aussi à Véronique Garofalo. Chouchoute 31, Chouchoute Toulouse.
Voilà.
D'accord. On est à la fin de l'émission, donc vous allez quand même redonner votre téléphone pour pouvoir prendre rendez-vous, pour venir vous voir. Et on va quand même aussi redonner l'adresse, s'il vous plaît, Véronique.
Oui, alors Chouchoute, 57 rue de la Concorde, à Toulouse. Et le téléphone, 06 89 07 20 24.
En tout cas, merci d'avoir ouvert un tel endroit à Toulouse, parce que je pense que c'est tout à fait nécessaire. En plus, je pense que c'est la bonne personne, honnêtement, qui l'a ouvert, parce que vous êtes tellement douce, tellement à l'écoute de l'autre. C'est formidable. Franchement, merci. Vous faites quelque chose d'utile. Merci pour toutes les femmes. Je ne manquerai pas de venir voir votre espace. Alors, je dis à nos auditeurs, pas la semaine prochaine, parce que je suis en vacances, mais on se donne rendez-vous pour le 2 décembre. Voilà, on aura... Un invité sympathique aussi le 2 décembre. Je ne dis rien de plus. Merci à tous pour votre fidélité et à très vite. Au revoir Véronique, merci beaucoup, au revoir.
Merci Irène.
Son hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère. Ainsi vont les vagues et roule l'écume, ainsi vont les mots couchés sous ma plume amère. Le veilleur de nuit en maillon de lune inhale la vie, son filtre il la fume entière. Une coulée de boue l'été. Quand le dernier souffle semble arriver, Dieu n'est plus du tout démodé du tout, je sais. Ainsi va la vie, récit ou roman, ainsi va la mode, printemps, été ou hiver. Oui, c'est la vie, c'est un bon enfant, mais chiche qu'elle te tire comme une biche à bout portant pépère.